J-2 avant cette affiche de rêve. France-Argentine en finale de la Coupe du Monde. Et ce duel entre les deux plus grandes stars du foot du moment, Lionel Messi et Kylian Mbappé, se partagent la tête du classement des buteurs au Qatar. Messi n'a jamais gagné la Coupe du Monde en 5 participations, même s'il va devenir dimanche le recordman de match dans la compétition. Pour Emmanuel Petit, champion du monde 98, c'est le tour de l'Argentin.
Moi, je me dis que si Messi est canalisé comme il l'a été en 2018 en huitième de finale, ça peut envoyer un très mauvais message à ses propres coéquipiers. Donc, ouais. Sincèrement, si Messi est canalisé, je crois que tu vas mettre une chape de plomb sur les Argentins et peut-être qu'il y aura moins de velléité ou peut-être qu'il y a d'autres joueurs qui prendront responsabilité. Mmh. Mais moi, j'ai toujours tendance à penser que dans les grandes rencontres, dans les grands événements, les grands joueurs font souvent la différence.
Bah, c'est pas voilà. Tendance à penser, Manu, c'est la réalité.
C'est la réalité, sauf que ça fait tellement longtemps qu'il court après ce titre suprême et qu'il ne l'a pas. Je me rappelle en 2018, même s'il a été de mémoire, il me semble qu'il a été buteur et passeur contre la France. Malgré tout, il avait été submergé par les Français, notamment par le talent de Kylian Mbappé. Donc c'est pour ça que j'en reviens encore. Ce duel, pour moi, tu peux pas ne parler que de Messi. Ouais, ouais, il faut mettre Kylian Mbappé dans la boucle. Ouais.
Voilà Manu Petit dans Rotten sans flamme hier. Mbappé, lui, a déjà remporté le mondial il y a 4 ans en Russie. S'il remet ça dimanche à même pas 24 ans, le Parisien sera seul à la table des plus précoces. Omar Da Fonseca, le consultant argentin de beIN Sport, est sous le charme.
J'ai fait quelques médias argentins cet après-midi. Personne ne m'a demandé de Rabiot, de Giroud.
C'est Mbappé.
Voilà, tout le monde a dit Mbappé. Et je te dis Romero, Otamendi, Molina, celui que... Donc aujourd'hui, évidemment que Mbappé, c'est l'élu de cette équipe. Et en dehors de moi, je dis qu'il ne fait même pas des matchs moyens parce que quelque part, il reste dans le défi. Il va provoquer. C'est pas que tu le trouves qu'il est dans le doute, qu'il hésite. Non. Le mec, il continue. Bon, évidemment qu'il ne peut pas réussir. Et il a justement la certitude qu'il est fort et il se sent fort et il va faire des décisions. Et évidemment, toute l'équipe d'Argentine et tous les Argentins ont peur de Mbappé.
Messi et Mbappé vont se disputer dimanche le plus beau des trophées, mais aussi sans doute le Ballon d'Or. Alors, qui de Messi et Mbappé décidera du sort de la finale? 32-16, touche 9. Vos messages sur la chaîne twitch.tv/rmcsport. Avant d'accueillir Nico Kougo et Nicolas Douchez, on retourne à Doha. Loïc Braillet est toujours avec nous. Loïc, les anciennes gloires du foot mondial sont présentes au Qatar. Il y a plein d'activités, plein de petits matchs et évidemment, cette finale tourne autour du duel Messi-Mbappé.
Évidemment, c'est le duel qui excite toute la planète foot et donc notamment, tu l'as dit, chez les anciens joueurs. Alors, on a la sensation globalement quand même que la balance penche un peu en faveur de Messi. Peut-être parce que Kylian Mbappé s'est montré moins décisif lors des deux derniers matchs face au Maroc et face à l'Angleterre. Il a moins crevé l'écran qu'après son doublé contre la Pologne, contrairement à Messi qui a été énorme sur chacun des matchs joués par l'Argentine. Et puis, on sent dans l'environnement de la FIFA une envie peut-être de voir l'histoire de Messi avec la Coupe du Monde se terminer par un cliché de la star avec le trophée dans les mains. C'est un petit peu dans l'air du temps, là, ici à Doha, depuis quelques jours. Beaucoup d'anciens disent que c'est inconcevable pour eux que l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur, ne soulève pas ce trophée. Il y a énormément de respect pour ce que réalise Mbappé, évidemment. Les médias argentins sont même obsédés par lui ces derniers jours. Mais comme il est encore très jeune et que lui a déjà gagné cette Coupe du Monde, eh bien, il y a peut-être plus de sensibilité sur Messi, lui qui a déjà annoncé par ailleurs que dimanche, ce serait son dernier match de Coupe du Monde.
Alors, tu parlais de légende. On va écouter tout de suite Youri Djorkaeff et Clarence Seedorf qui nous parlent donc de ce duel Messi-Mbappé.
Messi et Mbappé, pour le Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire, je crois. C'est deux styles différents, mais en tout cas, ce qui est bien aussi, c'est que Mbappé a marqué ses deux matchs qui viennent de passer, mais il a fait des matchs intéressants. Je suis pas sûr si Messi marque pas avec l'Argentine, est-ce que c'est les mêmes performances de l'équipe. Là, il a fait des matchs intéressants contre l'Angleterre, contre le Maroc, il a eu un repli un peu plus défensif. Il a fait un autre travail que le début de la Coupe du Monde, qui sont super intéressants.
Les dieux du foot offrent une dernière opportunité à Messi de remporter ce qu'il mérite. Mais on ne peut pas encore comparer Messi et Mbappé. Kylian a réalisé un travail incroyable et j'adore le regarder jouer. Dès qu'il touche le ballon, on sait qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est un joueur différent de Messi. Léo, lui, peut décider du cours d'un match de n'importe quelle partie du terrain, alors qu'Mbappé est plus près des buts et c'est là qu'il fait la différence.
Voilà, Clarence Seedorf et Youri Djorkaeff au micro d'Oussem Loussaïeff.
Il a bien appris sa leçon, Youri, mais c'est vrai que le coup, il est double, il est triple pour le Qatar. Tu as du mal à imaginer que ce soit un club avec un investisseur américain qui est deux joueurs en finale en 2026. LA Galaxy contre Inter Miami, on n'y pense même pas, mais tu vois ce que je veux dire ? Bah, si, peut-être, si c'est des joueurs de Textor, de l'OL. Ou... Mais bon, il y a des investissements américains, mais on a l'impression que c'est quand même plus le sportswashing d'Arabie Saoudite qui est en train d'arriver avec un milliard.
Nasser Al-Khelaïfi a bien joué le coup, évidemment. Loïc, toujours donc à Doha. Un mot sur Léo Messi qui ne s'est pas entraîné hier et sur la cheville de Kylian Mbappé. Est-ce qu'ils seront à 100% dimanche ?
Alors, Messi a été effectivement ménagé hier. Tous les journalistes argentins étaient déçus de ne pas le voir sur la pelouse. Pas d'inquiétude cependant. Il aurait une petite gêne aux ischios de la jambe gauche. Il a préféré privilégier la récupération. Il connaît son cœur par cœur. On va lui faire toute confiance. Quant à Mbappé, tous les feux sont ouverts aussi. On ne parle plus justement de sa petite gêne à la cheville gauche qu'on avait évoquée en début de tournoi. Pas de bobo, pas de mal de gorge ou de syndrome viral pour lui non plus. Pour l'instant, il est épargné. Il s'est bien reposé hier. Il aura quand même un jour de récupération en moins par rapport à Messi, et c'est confirmé, il ne s'exprimera pas avant la finale, puisqu'on a appris que c'est Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé qui seront présents en conférence de presse dans 2h30 maintenant environ. Donc on espère que la prochaine fois que Mbappé viendra à notre micro, ce sera avec la Coupe du Monde dans les bras.
On peut garder Loïc 2 minutes
bien
avec
sûr.
Nous parce que vous avez fait un travail de titan. Il y a une info hier qu'on sort sur le site qui pour moi est quand même hyper importante dans ce duel. Le joueur qui a le moins défendu de toute la Coupe du Monde, il s'appelle Kylian Mbappé. 0,19 actions défensives sur 5 matchs. Même Messi, ça a été 9 actions défensives en 570 minutes. C'est 1,4 par rapport à nos chiffres. Consigne ou pas consigne de déchance, qu'on a l'impression quand même, Loïc, c'est que... Non, ça, Griezmann l'a dit en conférence de presse. Il faut quand même qu'il se mette un peu à défendre. Et on a vu Didier Deschamps un peu furax là-dessus. Il n'y a pas des consignes de ne pas défendre du tout pour Mbappé.
Franchement, si.
Ah ouais,
franchement,
ah
si.
Ouais.
Ici, il y a un joueur en équipe de France, mais c'est quasiment assumé publiquement, quasi publiquement, en tout cas dans le groupe, ça c'est certain. S'il y a un joueur qui a le droit, entre guillemets, limite le devoir de ne pas défendre pour justement garder tout son influx sur les actions offensives, c'est Kylian Mbappé. Donc en fait, ce chiffre-là, il n'est absolument pas surprenant par rapport à ce qu'a demandé Deschamps à Mbappé et qui a été parfaitement accepté par le reste du groupe. Et tu as raison de faire référence à la sortie d'Antoine Griezmann en conférence de presse qui était fabuleuse d'ailleurs, hein, par ailleurs avec le joueur de l'Atletico. C'est très clair pour tout le monde, c'est accepté par tout le monde, et Griezmann, lui, moi, il disait, moi, mon boulot, c'est je récupère le ballon, je me projette vers l'avant et je vais chercher Kylian tout de suite, qui va se mettre vers la direction du but adverse.
J'avais le sentiment quand même, Loïc, il y a un moment où il y a un joueur marocain à 1m20 de lui, on lui dit, oui, enfin... D'accord, on t'a délesté des tâches défensives, mais pas pousser le bouchon quand même non plus, Maurice.
On est d'accord, on est d'accord. Il y a peut-être certaines actions où il a peut-être un poil exagéré. On ose espérer quand même que là, en finale de Coupe du Monde, s'il doit donner un petit coup de rein pour rattraper, au moins faire un pressing qui peut permettre de gêner la relance argentine ou peut-être de récupérer le ballon, voire de faire faute en cas de début de contre-attaque, on ose espérer qu'il va le faire. Pas de souci, mais en tout cas, en termes de consignes du staff et de Didier Deschamps, il y a un joueur qui est autorisé à aller moins défendre que les autres, c'est clairement Kylian Mbappé.
On accueille tout de suite Nicolas Douchez, l'entraîneur des gardiens du Havre, l'ancien gardien du PSG, de Rennes, de Toulouse. Une convocation en équipe de France était en août 2010. Salut Nico.
Salut les gars.
Salut Nico.
Nico, on parle de Messi et Mbappé qui décidera du sort de la finale. Avant de te faire réagir sur le thème de notre débat, tu as entendu Thomas Desson parler de l'investissement défensif d'Mbappé. C'est celui qui défend le moins dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il ne devrait pas quand même en faire un petit peu plus, Mbappé, pour aider son équipe ?
Ouais, je suis un peu partagé là-dessus, dans le sens où il fait quand même énormément de différences offensives. Si ce n'était pas le cas, on pourrait s'en plaindre. Mais là, il a tellement apporté offensivement dans cette équipe de France. Et je me dis, peut-être un peu bêtement, mais quand sur 11 joueurs, il y en a 10 qui défendent, ils sont capables à 10 de faire
T'es pas bête, Nico, t'es pas bête. T'es pas bête, Nico, on te connaît.
Ça me rassure que tu me dis ça.
Nico, du coup, qui de Messi et Mbappé va décider du sort de la finale ?
Et moi, je suis français, je suis chauvin, je suis derrière l'équipe de France, donc évidemment, je vais dire Kylian. J'ai tellement envie que la France ramène cette coupe au pays que j'ai aucun doute sur ça. Il va faire la différence. Il a, je pense, un peu de frustration de ne pas avoir marqué sur les deux derniers matchs. et ça peut l'exciter pour cette finale.
Vous savez, les copains, il n'a pas marqué en quart de finale et en demi-finale en 2018 aussi. Hein. L'histoire se répète.
Belle analyse.
Ouais, ouais. Fanny Palazzolo, est-ce que tu penses que c'est également Mbappé qui va décider d'une sorte de la finale?
Ah bah j'ose espérer. Et moi, je trouve ça assez fou. Alors, Messi, c'est un grand joueur. Mais j'hallucine de voir autant de oh, le pauvre, c'est son dernier match, il faudrait qu'il gagne. Mais est-ce qu'en 2006, les Italiens, ils chialaient en disant oh,
voilà, là, rien à secouer, voilà, Fanny.
Mais hein, moi, j'ai envie de le voir chialer, Messi. Et puis, je voudrais que les supporters de Messi se rassurent, la saison, elle n'est pas finie. Le 6 juin, il joue à Châteauroux. Messi, il a un gros match de Coupe de France. Il y a encore des titres à aller chercher.
Janvier.
J'ai dit quoi? J'ai dit
6 juin, à mon avis. Je ne sais pas si la Berrichotte sera encore dedans en juin.
Pardon,
je leur souhaite.
Mais je crois que tu alors, en été. Non, moi, je veux voir Messi chialer et je veux qu'Mbappé il fasse le taf. Quoi.
On va aller sur ce sujet voir Nicolas Cougo qui est en Argentine et qui est avec nous également. Salut, Nico.
Salut Jérôme, bonjour à tous.
Bon, tu as entendu Fanny Palazzolo, elle est dure avec Léo Messi, hein. Elle veut qu'il pleure à l'issue du match, mais qu'elle pleure de tristesse, pas de joie. Hein.
Ouais, ça, faut pas qu'elle vienne en Argentine dire ça, hein, sinon clair. Ça va pas bien se passer.
C'est dommage, et Buenos Aires, c'est la Paris du Sud, hein. C'est pas mal, c'est beau. Hein.
Ah oui, c'est vrai. Nico, c'est vrai, puis non, mais en plus... ouais, vas-y.
Non, c'était juste pour te demander comment, dans quel état d'esprit sont les Argentins. Évidemment que eux, j'imagine, se disent que c'est Messi qui va décider du sort de la finale.
Ah bah là, de toute façon, c'est oui. Enfin, Messi a une statue, un statut et une stature ici. Nous, on était à l'Obélisco après la qualif pour la finale. Tout le monde a son maillot Messi, quel que soit l'âge, quel que soit... enfin voilà, c'est limite tu vois quelqu'un qui n'a pas un maillot de Messi, tu te demandes ce qui lui est arrivé en fait. Ou alors tu arrives très vite à identifier de quel club il est supporter hein, en Argentine. Parce que voilà, tu arrives à avoir des maillots Julian Alvarez, donc tu sais que c'est un gars de River. Mais sinon, il y a du Messi partout, ça s'en met qu'à lui. Dès qu'il apparaît sur les écrans, dans les fan zones ou devant les télés, les gens se lèvent et applaudissent. Donc oui, c'est leur dieu qui va les... Alors ils te diront pas que ça va leur amener la coupe parce que les Argentins sont extrêmement superstitieux. Donc quand tu discutes avec eux, là tu vois pour dimanche, ils te disent ah, c'est dur la France, c'est au moins 50-50, la France est favorite. Ils te diront jamais ça parce qu'ils veulent pas attirer le mauvais œil. Mais oui, au fond, ils y croient à fond quoi.
Évidemment. Donc
on doit toujours choisir entre Snoop D.O.W.G. et Notorious B.I.G. On doit choisir entre Tupac et Biggie. Ben moi, j'ai pas envie de choisir dans mon rap entre la East Coast et la West Coast. Non, tu regardes les stats à l'été et à l'automne de Mbappé et de Messi dans des registres différents. 20 buts dans ces deux compétitions, Ligue des Champions et Ligue 1 pour Mbappé, 5 passes décisives, 25 total. L'autre c'est 11 et 14, 25 total. Il y a eu un petit but en Trophée des Champions en plus. Donc les deux à eux deux, 51 réalisations à eux deux. Mais c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, Jérôme, c'est que il y a une plus grosse dépendance à Messi de façon constante dans le cœur du match. Et que Mbappé, il faut que ce soit ces fameux éclairs, ce plus fort taux de bascule, ce gros à-coup. Lors de la demi-finale, les ballons dans un petit périmètre, il bute. Certes, ça fait un but derrière, mais il bute. Messi, dans des tout petits périmètres, il la met au fond.
Loïc Moreau, qu'est-ce qu'elles disent les stats sur Lionel Messi et sur Kylian Mbappé? Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre Mbappé. Depuis le début de la Coupe du Monde?
Mbappé, depuis le début de la Coupe du Monde et puis dans toute leur carrière en Coupe du Monde. De toute façon, Mbappé a l'avantage à ce niveau-là. Et encore plus si tu enlèves les pénaltys et les buts sur pénalty marqués par Messi. Alors, c'est pas pour les a marqués, tout ça, mais on parle dans le jeu pour...
Penaldo.
En termes de but dans le jeu, effectivement, Mbappé est largement au-dessus. Il est plus décisif que lui. Il a une présence dans la surface qui est beaucoup plus importante que lui. Alors après, c'est effectivement ce qu'évoquait aussi tout à l'heure Clarence Seedorf, je crois, en disant que Messi était capable de faire des différences de plus loin. Alors, je pense qu'il n'a pas regardé les derniers matchs de l'équipe de France.
Non, c'est Habibi pour lui dire, vas-y, fais 60 mètres et débrouille-toi.
Exactement. Je pense qu'il n'a pas regardé les derniers matchs de l'équipe de France et il aurait vu que Kylian Mbappé est lui aussi capable de faire des différences en prenant le ballon dans
le central. Il fait référence au but face à Guardiola où il fait effectivement 40 mètres. Quoi.
Oui, non, mais ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il est meilleur en dribble, il court à une plus haute intensité, il court plus. Enfin, oui, il est meilleur partout, clairement.
Nicolas Duchez, est-ce qu'on peut dire que l'Argentine est plus dépendante de Messi que la France ne l'est d'Mbappé?
Ouais, je pense vraiment que Messi a une telle aura sur cette équipe qui a une vraie dépendance à ce joueur.
Un peu comme Nico Douchez au Paris Saint-Germain en 2011-2012, tu vois. C'est cette aura-là. C'est toi qui payais les restos, mec.
Et ouais, mais bon, après, je choisissais des restos pas trop chers quand même. Hein.
Vas-y, poursuis, Nico. Te laisse pas distraire, parce que sinon, avec Thomas, on s'en sort pas.
Ouais, ce sont des faits aussi.
Et pour Mbappé, c'est vrai qu'il y a forcément une grosse influence de sa part dans le jeu de l'équipe de France. Mais en équipe de France, on a quand même la sensation que ça peut arriver de partout. Franchement, les quatre de devant font beaucoup de différence. Et ce qui est intéressant, c'est que les entrants, quand on a vu l'entrée de Thuram la dernière fois, Colomoigny qui est capable de marquer sur son premier ballon, Coman qui était absent mais qui lui aussi a d'énormes qualités, on a l'impression qu'offensivement il y a une puissance quand même dans cette équipe de France qui est aussi importante que l'apport de Mbappé.
Alors, nos équipes à Doha ont rencontré Mickaël Silvestre hier, ancien défenseur central de l'équipe de France. Écoutez plutôt ce qu'il dit sur la façon dont il faut défendre face à Lionel Messi.
Léo, faut le prendre au début parce que dès qu'il est en mouvement, c'est encore plus difficile. Qu'il est capable, bien sûr, d'éliminer, de créer un décalage. Ou alors, on arrive un peu trop tard, il pousse le ballon, d'un moment, on fait faute. Donc, laisser le moins d'espace possible pour se donner justement une chance de gagner un duel. Ça arrive, hein, y a des défenseurs quand même qui gagnent un duel contre lui, c'est pas impossible. Le plus grand danger pour moi, c'est qu'il s'efface, il se fait oublier. Donc, toujours que les défenseurs et les milieux de terrain aient une communication constante pour qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment pas surpris et dans sa zone.
Loïc Braille est auprès de l'équipe de France. Loïc, est-ce qu'un plan anti-Messi va être mis en place par les Bleus ?
Bon, alors il est évident qu'ils vont faire attention à lui dans la préparation, bien sûr. Il y a deux joueurs qui vont avoir un rôle a priori très important sur cette finale. C'est Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni qui vont a priori évoluer le plus souvent dans la zone de Messi, même si on sait que la zone de Messi peut être extrêmement large et en profondeur aussi. Mais ça devrait souvent passer par eux. Donc on va être très attentif à leur état de santé, savoir comment ça se passe aujourd'hui à l'entraînement. Et puis on essaiera de savoir effectivement s'il y a des consignes particulières données par le staff. En tout cas, dès la fin du match contre les Marocains, on a déjà commencé à sonder les joueurs sur cet affrontement face au Jardin argentin et notamment l'affrontement face à Messi. Ils veulent vraiment faire abstraction. Ils savent très bien que les médias, nous, on va en faire des tonnes. On est déjà en train de le faire jusqu'à cette finale. Ils veulent se détacher de ça et surtout, ils veulent insister sur les autres joueurs argentins quand même. Il y a Alvarez qui est pas maladroit non plus quand même dans les zones dangereuses.
4 buts cette année déjà. Ouais.
Voilà, qui doit être très surveillé par la défense. Il y en a d'autres aussi. Il y a une défense très rugueuse qui va peut-être chercher à vouloir faire péter les plombs à certains joueurs. Il y a tout cet aspect psychologique qui est pris très au sérieux aussi côté argentin. Il n'y a pas que Messi, même si Messi prend beaucoup de place et sans doute qu'il y aura un focus de fait sur lui dans la préparation, mais ils veulent vraiment avoir une prépa globale prêt. C'est vraiment un match qui se prépare psychologiquement avec plusieurs items, et bon, Messi en fait partie, mais il n'y a vraiment pas que lui.
Nicolas Cougou à Buenos Aires, est-ce que les Argentins, eux, se focalisent sur Mbappé? Est-ce qu'ils s'inquiètent que Molina soit en face de lui?
Pas vraiment. Ça veut pas dire qu'ils sous-estiment, hein, mais évidemment, la menace numéro un, comme nous en France, pour l'Argentine, la menace numéro un, c'est Messi. Donc côté argentin, c'est ce que disait Omar tout à l'heure dans le passage que vous avez passé tous là. Mais oui, ils focalisent sur Mbappé, qui est évidemment le facteur X des Bleus. Après, ils parlent forcément de Mbappé. Ils en parlent aussi sur. On a vu quelques articles ressortir sur ses déclarations par rapport au retard qu'aurait le football sud-américain. Donc forcément, hein, on appuie un petit peu là où on peut créer des polémiques, surtout en Amérique du Sud. Mais footballistiquement parlant, ils s'intéressent quand même avant tout à leur sélection, pour dire les choses. Les médias sont en boucle sur l'Argentine, sur est-ce que Di Maria va jouer, des choses comme ça. Et voilà, ils n'ont pas, comment dirais-je, une obsession absolue sur Kylian Mbappé non plus, même s'ils savent que oui, évidemment, c'est la menace numéro un. Et par rapport à Molina, quand on voit ce qu'il a fait jusqu'ici, voilà. Ils ne sont pas en train de trembler en se disant « le pauvre Molina, il va souffrir ».
On se demandait d'ailleurs tout à l'heure à 11h dans les grandes gueules du Mondial qui était le mieux entouré de Messi et d'Mbappé. On en dit quoi en Argentine sur ce sujet-là?
Ah, c'est une bonne question, ça. Franchement, ils ne parlent pas vraiment plus de l'équipe de France que ça. En tout cas, pour l'instant, à deux jours, voilà, ils n'ont pas fait un focus. Les quelques, comment dirais-je, qu'il ait quelques articles et dans les médias, à la télé aussi, on a vu quelques éléments de comparaison, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui entoure Messi. Ils ont comparé Dibu Martinez avec Lloris, voilà, pour dire les choses.
Est-ce que, Nico,
un petit peu de Griezmann.
Est-ce que vous parlez, ouais. Est-ce qu'on parle de l'attaque, on parle de Messi, on a dit que j'ai l'impression quand même que ce mondial s'est joué un petit peu plus lentement qu'à l'accoutumée pour mille et une raisons qu'on a évoquées, mais l'Argentine n'a subi que 34 tirs, c'est la meilleure défense depuis France 98 qui était hyper hermétique, c'était 38 tirs avant la finale. Est-ce que vous parlez de votre défense retrouvée? Est-ce que ça c'est un point fort de l'Argentine sur lequel on s'appuie? Ou pas vraiment?
Ouais, bah, et ça parle surtout de cet équilibre que, enfin, c'est l'équipe de Scaloni. Ça fait trois ans que cette machine s'est mise en place. Donc oui, il y a eu quelques petits motifs d'inquiétude, mais qui étaient entre guillemets des motifs liés à l'état physique. Par exemple, Couti Romero, sur le premier match, il n'était pas au top. Physiquement, là, on l'a retrouvé. Ça parle beaucoup de la Coupe du Monde d'Otamendi, qui est absolument énorme.
Tous les joueurs du Benfica ont été énormes. Tous les joueurs du Benfica,
ouais,
qui ont joué en sélection.
Clairement, clairement. Clairement, donc ça parle de ça, et ça parle aussi, surtout beaucoup, c'est quelque chose qu'ils ont noté en Argentine, dès le match face à la Pologne, qui était le match décisif de la phase de groupe, y a eu une phrase qui a été prononcée en direct à la télé, qui était « on a retrouvé l'Argentine des milieux ». Et donc avec Enzo Fernandez, avec Alexis Mac-Allister, avec Rodrigo De Paul, qui quand son équipe joue bien, est toujours, c'est un peu sa limite, entre guillemets, mais quand il est dans une équipe qui joue, il est toujours performant. Et puis Messi qui revient chercher. Donc c'est un ensemble, en fait. On est, voilà, cette sélection-là, et c'est l'équipe de Scaloni, c'est la Scaloneta, elle a convaincu la foule par rapport à ça, elle a rassuré tout le monde, et puis elle monte en puissance de match en match. Le match face à la Croatie... Il y a eu une très belle phrase qui a été prononcée, qui était « l'Argentine n'a pas eu le ballon, mais elle a contrôlé le match ». Et c'est ça qui est noté, surtout cette capacité à contrôler les matchs.
François est au 32-16, touche 9, dans les grandes gueules du Mondial, supporter des Bleus. Salut François.
Salut à tous.
Salut.
François, qui va décider du sort de la finale, c'est Messi ou c'est Mbappé?
J'aurais tendance à m'inscrire un petit peu en faux, en fait, de ce débat qui est un peu binaire quand même, en fait. Moi, je crois que justement, tout le monde fait le focus, et donc pas que chez nous, chez eux aussi, sur les deux grosses têtes d'affiche. Et on sait aussi, quand on connaît le football, que c'est le meilleur moyen, en fait, que les deux se mettent la pression de fou, se disent, ouais, bon, voilà, c'est l'un ou l'autre. Et en fait, c'est la meilleure façon pour que ce soit peut-être des Alvarez, des Di Maria, des Giroud, des Griezmann, ou voire même des milieux de terrain ou des défenseurs qui fassent la différence. C'est en tout cas là, voilà, et je vous écoutais en attendant de passer, et puis j'ai lu aussi quelques articles depuis ce matin. Je pense que justement la différence se fera ailleurs.
Nicolas Duchez, sur le plus généralement autour de cette finale, on a l'impression qu'il peut rien arriver à l'équipe de France. Est-ce que tu partages aussi ça?
On a cette sensation de solidité, mais j'ai envie de dire un peu comme du côté de l'Argentine, il y a un équilibre qui a été trouvé sur ces deux équipes. On sent les deux équipes monter en puissance. Pour parler des gardiens, Hugo Lloris qui était un petit peu critiqué sur le début de cette Coupe du Monde, mais qui est monté en régime et qui a aussi cette expérience d'avoir été jusqu'au bout de cette compétition. Et ça peut être un vrai plus quand on a le capitaine, le leader de son équipe qui a déjà vécu ces situations. Ça peut apporter quelque chose de supplémentaire pour aborder cette finale et en tout cas dans l'aspect psychologique des choses.
Merci beaucoup Nicolas Duchez, bon entraînement avec le HAC.
Merci beaucoup.
Merci
les gars.
Nico, salut Nico.
À bientôt sur l'antenne de RMC et de RMC Sport. Nicolas Duchez, l'entraîneur des gardiens du Havre. On va remercier également François qui est venu au 32-16. Merci, remercier également Nicolas Cougot depuis l'Argentine. Merci Nico.
Merci à vous.
Et on va remercier également Loïc Braillet à Doha. Bonne journée,
ciao,
Loïc.
Ciao, les gars.
Le programme, il y a de la conférence de presse aujourd'hui, c'est ça, hein?